journal vous est présenté par Philippe Bocara. Bonjour Philippe.
Bonjour Hélène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Venezuela en pleine crise politique vote aujourd'hui malgré une très forte opposition au pouvoir socialiste avec 110 morts. Le scrutin est organisé pour désigner une assemblée constituante. Nous irons à Caracas. Après le vote du texte sur la moralisation de la vie publique, les langues se délient. Des députés parlent de punition collective à propos de la fin des emplois familiaux. Les agriculteurs bio français très en colère. La nouvelle répartition des aides de la politique agricole commune ne les satisfait pas. Ils craignent pour leur filière. Et puis les grandes vacances débutent pour certains d'entre vous. Les Français préfèrent le mois d'août. Direction Marseille pour les premières baignades.
Au Venezuela, en pleine crise, le président Nicolas Maduro a réussi.
Oui, ses partisans élisent aujourd'hui une assemblée constituante sans opposition. Depuis des semaines, les violentes manifestations ont fait 110 morts. Elles ont suscité une forte réprobation internationale. Dans un climat tendu, cette assemblée représentera un super pouvoir pour Nicolas Maduro. Elle va diriger le pays pour un temps indéterminé. Sandrine Etoandek, vous êtes notre envoyé spécial au Venezuela. Alors, comment va se dérouler ce scrutin ?
Il y a plus de 6000 candidats à cette élection. 545 membres doivent être élus. Les électeurs votent deux fois. Un vote territorial par circonscription et un vote par catégorie socio-professionnelle comme les jeunes, les patrons ou encore les fonctionnaires. La démocratie directe, dit le gouvernement, une farce, répond l'opposition qui ne présente pas de candidats et appelle à boycotter le scrutin. Pour les anti-Maduro, cette élection est la dernière carte d'un président aux abois contesté depuis son élection en 2013 et qui ne sait plus quoi faire pour rester au pouvoir. En résumé, la dernière étape avant une dictature. Le président socialiste présente lui cette nouvelle assemblée et qui sera habilité à dissoudre toutes les autres institutions de l'État comme la solution à la crise politique, économique et sociale. Un scrutin sous haute tension, plus de 230 000 soldats sont déployés pour protéger les bureaux de vote et les électeurs pris à partie par ceux que Nicolas Maduro qualifie de fascistes. L'enjeu pour l'héritier de Chavez, c'est la participation. Il espère faire mieux que le référendum officieux contre la constituante organisé par l'opposition il y a 15 jours et qui avait réuni plus de 7 millions de suffrages. Caracas, Sandrine Etoandek, France Inter.
Et les bureaux de vote doivent ouvrir à midi, heure française. Les forces de l'ordre australiennes ont déjoué hier un complot terroriste présumé islamiste, une annonce du Premier ministre australien. Il visait à faire écraser un avion avec un engin explosif improvisé. 4 personnes ont été arrêtées à Sydney, selon la même source. Dans la foulée, les mesures de sécurité sont renforcées dans les principaux aéroports du pays. L'agresseur au couteau de Hambourg qui a tué avant-hier un homme et fait 6 blessés était connu comme islamiste. Il avait montré des signes de radicalisation selon les autorités allemandes. Elle précise que ses motivations restent incertaines car il était aussi instable psychologiquement.
Il est 8h03, nous avons largement évoqué le sujet sur France Inter. La fin des emplois familiaux sera désormais appliquée.
Oui, cela pour les ministres, les députés, les sénateurs et les élus locaux. Il s'agit de l'une des décisions phare de la loi de moralisation de la vie publique votée vendredi soir. Une mesure dans l'air du temps très populaire mais cependant injuste selon certains élus dont les proches travaillaient à leur côté en toute transparence. C'est le cas de Yannick Favenet, qui est député UDI de Mayenne. Précision avec vous Aurélien Colli.
Pour commenter la fin des emplois familiaux, les députés ne se bousculent pas. Rares sont ceux qui osent critiquer une mesure aussi populaire. Au micro de France Bleu Mayenne, le député Yannick Favenet qui voit surtout une punition collective pour les pratiques douteuses d'une poignée. 4e mandat avec son épouse comme collaboratrice en circonscription.
Mon épouse, elle est très utile dans mon organisation professionnelle par ses compétences, par son savoir-faire, par sa proximité aussi avec moi. Je regrette que nous soyons, entre guillemets, des victimes collatérales. En même temps, je comprends que ce qui s'est passé, notamment avec l'affaire Fillon, ait profondément choqué l'opinion. Voilà, c'est comme ça.
À la fin de l'année, le député ne renouvellera donc pas le contrat de son épouse. 9 ans de travail pour Héloïse Favenec, balayée sans même que la question de ses compétences ne soit posée.
Je me suis donnée à fond et aujourd'hui, je vais être sanctionnée tout simplement parce que je suis l'épouse de mon mari et non pas parce que j'ai mal travaillé. À aucun moment, on a été contrôlé. Personne n'est venu voir quel travail je faisais. Je ne crois pas que dans la circonscription, il y ait des électeurs qui puissent dire que mon emploi est un emploi fictif et qu'en quelque sorte, j'ai volé la place que j'occupe à l'heure actuelle.
Tout le monde connaît le couple dans ma circonscription, explique aussi de son côté le député du Loiret, Jean-Pierre Door, qui a toujours employé son épouse. Deux poids, deux mesures, regrette-t-il, car le président, lui, veut un statut pour sa femme.
Et le non-respect de ce texte qui concerne la famille proche est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
L'affaire des villas Ferracci en Corse.
Un rassemblement anti-villa a lieu ce dimanche à 16h dans la forêt de Vizzavona au centre de l'île. La cour d'appel de Bastia avait condamné le 5 juillet dernier Pierre Ferracci, un proche d'Emmanuel Macron, à 1 million d'euros d'amende, mais pas à la destruction de ces deux villas de plus de 600 mètres carrés chacune. Selon les informations de nos confrères de France Bleu, Frequenza Mora, l'association Ulvante va se pourvoir en cassation. Elle réclame la démolition des villas construites sans permis sur un site protégé de Corse du Sud, près de Bonifacio.
Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs français convertis au bio.
Mauvaise nouvelle aussi pour ceux qui préparent leur conversion. On se souvient que le président Macron a promis pendant la campagne des aides supplémentaires. Cela pour continuer l'accompagnement du développement du secteur. Eh bien, l'arbitrage du ministre de l'Agriculture sur les attributions des aides de la politique agricole commune, pris cette semaine, alarme les syndicats. Ils n'y trouvent pas leur compte, Héloïse de Neuville.
Les agriculteurs bio sont inquiets. La répartition de la PAC annoncée par le gouvernement cette semaine ne permettra plus de conserver une filière attractive. C'est ce que dénonce Stéphanie Pajot. Elle est présidente de la Fondation nationale d'agriculture biologique.
Si on n'a pas l'argent, ça veut dire qu'aucun agriculteur dans l'avenir ne va être tenté par l'agriculture biologique. Quand on se convertit à l'agriculture biologique pendant 2 à 3 ans, on n'a pas la rémunération par le prix. Donc on a besoin d'aide qui compense ce manque à gagner. Et de plus, pendant cette conversion, il y a souvent un changement de système. Donc il y a besoin d'un accompagnement. C'est nécessaire, indispensable.
Indispensable, par exemple, pour Stéphane Delmotte, agriculteur dans le Pas-de-Calais. Il convertit progressivement son exploitation de 80 hectares au bio.
Tous ces montants qui sont versés en aide entre dans notre plan économique, ce qui fait que sur ce qui se passe là actuellement, on a clairement un manque à gagner qui peut compromettre la viabilité de certaines fermes. C'est clairement envoyer des gens ou des exploitations agricoles à la mort.
Aujourd'hui, seuls 6% des terres exploitées le sont selon les critères de l'agriculture biologique en France. Pourtant, le marché est en très forte croissance. Il a bondi de 20% l'année dernière.
Les explications d'Héloïse Deneville, un premier jour de vacances pour les Aoussiens après le traditionnel chassé-croisé avec finalement 610 km de bouchons sur les routes de France à midi contre 688 à la même heure l'an passé. Pour ceux qui ont choisi la mer une fois arrivés sur les rives de la Grande Bleue, une seule envie, se mettre à l'eau. Marseille n'a pas dérogé à la règle. Olivier Martoc a facilement reconnu ses visages pâles.
En début d'après-midi, les premiers nouveaux vacanciers débarquent sur la plage du Prophète. Ils sont faciles à repérer.
Je suis extrêmement blanc, donc je suis obligé de mettre de la crème tout de suite, parce que sinon, en fait, je bronze pas, je prends des coups de soleil. C'est la première fois que j'arrive à Marseille aussi, donc ouais, évidemment, profiter du soleil, du beau temps, profiter un peu. Quoi.
Le ciel est bleu, la chaleur est au rendez-vous, mais une petite déconvenue les attend.
Elle est hyper froide, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on se laisse porter par les vagues et c'est super bien, ouais. On se sent bien après.
Pour les maîtres nageurs, la chaleur sur la plage, plus de 45 degrés au soleil, et la température de l'eau, 18 degrés, sont synonymes de risques dont la plupart des vacanciers n'ont pas conscience. Jérôme Faure est chef de bassin au Sporting Club Corniche, Marseille.
Ils vont se jeter et puis on risque de graves soucis. C'est l'hydrocution, c'est des malaises, c'est ce qu'on appelle un choc thermique. Ça fait du travail pour les maîtres nageurs qui pourraient être évités facilement par le public. Il suffit de faire attention et de s'hydrater régulièrement, d'aller toucher l'eau de temps en temps et puis de rentrer très progressivement.
Allez, on va positiver. Il fait beau, il fait chaud, le vent est tombé et la température de la mer va remonter. Avant le coup de Mistral de cette semaine, elle était à 24 degrés ici. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et selon les professionnels du tourisme, un premier bilan de la fréquentation sur le mois de juillet fait état d'une baisse de 4%, mais aussi d'une réduction des dépenses, notamment au Pays Basque et en Languedoc-Roussillon.
Globalement, on le verra tout à l'heure avec notre invité à 8h20, c'est plutôt un bilan positif pour les 6 premiers mois de l'année et il reste sur cette bonne impression. Merci Philippe Bocara, tout de suite le journal des sports.